Les lectrices, les lecteurs de Lire et Faire Lire, offrent aux enfants, enseignants et parents leur coup de cœur en littérature jeunesse. Voici des présentations d'albums ou de romans sélectionnés pour leur qualité bien sûr, mais aussi parfois pour leur originalité. Vous les retrouverez sur le blog de Lire et Faire Lire, https://lireetfairelire.laligue10.org, 10 en chiffres. Et sur le site de Thème Radio à la rubrique Podcast, bonne écoute et belle découverte.
Celui qui dessinait les dieux, d'Alain Grousset, aux éditions Scrinéo. Nous sommes dans la période de la préhistoire, entre 60 000 et 15 000 ans avant Jésus-Christ, à une époque où les peintures sur les parois des grottes apparaissent et se multiplient. Les deux plus célèbres grottes situées en France sont la grotte Chauvet, dont les peintures datent de 35 000 ans avant Jésus-Christ, et la grotte de Lascaux, datée de moins 17 000 ans. Ibo est l'apprenti de Tahar, qui est chargé de dessiner dans la grotte de la tribu les dieux animaux, afin que ces derniers soient favorables lors de la chasse. Je vous lis le premier chapitre de cette histoire. Les hommes étaient heureux. La chasse avait été bonne. Ils ne sentaient pas le poids de la branche qui leur sciait l'épaule tandis qu'ils marchaient, deux par deux en file indienne, sur le chemin tracé par les aurochs toujours en quête d'un nouveau pâturage. Si la charge était lourde, c'est que sur chacune de ces branches pendait un saïga. La main des hommes n'avait pas tremblé au moment de tendre le bois qui plie et de lâcher la flèche. Ceux qui se servaient du bois qui perce avaient atteint leur cible sans faiblir. 5 antilopes mortes pour nourrir le clan pendant plusieurs jours et offrir leur peau à tanner. Une belle chasse. Ibo reconnut la grosse pierre plate qui s'avançait au-dessus de la trace, au point de faire un bon abri en cas d'orage. Le groupe de chasseurs n'était plus très loin du camp. Tant mieux, car il avait eu beau mettre une grosse couche d'herbe entre sa peau et le bois, le frottement et le poids de la branche devenaient intolérables. Mais pas question de se plaindre, c'était sa première saison de chasse. Les chasseurs l'avaient accepté parmi eux, le considérant assez âgé pour ce genre d'activité. Un honneur qu'il devait mériter. Alors, Ibo serra les dents et continua d'avancer. La dernière partie du parcours fut la plus dure. Le chemin grimpait le long de la colline pour rejoindre la grande caverne qui s'ouvrait face à la plaine où serpentait une petite rivière. L'hiver, lorsque les arbres se débarrassaient de leurs feuilles, on voyait surgir au loin le gibier ou les clans ennemis. L'été, un écran de verdure cachait l'entrée de la grotte, la rendant invisible aux yeux de ceux qui voulaient tuer les guerriers et voler les femmes. La contrepartie était qu'on ne voyait pas le danger survenir. Tsourg, le chef du village, avait mis en place un système de guetteurs, composé de femmes et de jeunes, afin de prévenir toute arrivée. La survie du clan en dépendait. Un cri guttural retentit par 3 fois. La troupe des chasseurs venait d'être repérée et signalée comme amie. D'autres cris, de joie, ceux-là, résonnèrent depuis l'entrée de la caverne. Rapidement, plusieurs enfants déboulèrent en courant par les 3 chemins. Ils rirent, frappèrent dans leurs mains, ululèrent des chants joyeux à la vue des prises accrochées par les pattes, têtes ballantes. Leur ventre ne crierait pas famine durant les prochains jours. Cela les rendait heureux. La troupe arriva finalement sur l'esplanade de la grotte où tous les valides les attendaient. Fièrement, les hommes firent un cercle et tournèrent plusieurs fois en dansant et en chantant, histoire de remercier le dieu de la chasse et aussi de parader devant le reste du clan. Enfin, ils posèrent leur lourd fardeau. Ibo se massa le haut de l'épaule. Il n'eut pas le loisir de le faire très longtemps. Un vieillard sortit des profondeurs de la grotte, une torche à la main, et se dirigea droit vers lui. « Tu en as, j'espère ?» Ibo décrocha de sa ceinture un récipient fermé avec un bouchon d'herbe. « Plein à ras-bord !»« Parfait, viens avec moi !» répondit l'ancien en lui tendant le flambeau. À aucun moment, Tahar, le vieil homme, ne demanda à Ibo s'il était fatigué, s'il avait soif ou faim. Seul, la calebasse dont il s'était emparé et qu'il gardait précieusement contre lui l'intéressait. Le garçon ne s'en offusqua pas Il était aussi passionné que son ami. Tous les deux abandonnèrent le reste du groupe et s'enfoncèrent dans les profondeurs de la montagne. L'obscurité et le silence les avalèrent aussitôt. Ibo frissonna à cause du changement de température. Le vieil homme le suivait allègrement dans ce dédale de galeries où il fallait faire attention à ne pas s'ouvrir le crâne sur un morceau de pierre qui tombe ou se cogner le pied sur une pierre qui monte. Le jeune homme connaissait le chemin par cœur et évitait tous les pièges tendus par la nature, qui voulait à tout prix garder ses secrets. Finalement, il leur fallut ramper sur plusieurs mètres dans la glaise humide pour franchir ce passage difficile qui débouchait sur une vaste salle. Ibo leva la torche. À chaque fois qu'il venait là, il était émerveillé par la beauté qu'il découvrait à la lueur de son flambeau. Un univers minéral dont les formes ondoyaient dès qu'il bougeait le flambeau. Il y avait des pierres partout, de couleurs différentes, fragiles pour certaines, très dures pour d'autres. Le bruit des gouttes d'eau tombant dans les cuvettes limpides évoquait une musique aussi mystérieuse que ce lieu magique. Son vieil ami le poussa d'un coup d'épaule. Tous les deux se dirigèrent vers le fond de cette immense salle, là où un large mur se dressait devant eux. À l'aide de morceaux de bois, ils avaient construit un échafaudage qui permettait de grimper à mi-hauteur de la paroi. Tahar trouva une calebasse en forme de cuvette qu'il approcha d'une outre. Il plongea la main à l'intérieur de celle-ci et en sortit une poudre fine de couleur ocre. Il recommença plusieurs fois, puis, jugeant qu'il y en avait assez, déboucha le récipient apporté par Ibo et versa le contenu sur la poudre. « Oh, le beau sang bien frais !» s'écria avec joie le vieil homme. « Vas-y, agite-le avec un bâton, sinon il va cailler et tout sera perdu. » Ibo s'empressa d'obéir à son maître qui lui faisait partager tous ses secrets pour bien préparer les pigments. « Regarde cette belle couleur! Le sang est un liant qui fonce et fixe le rouge. Ce sera superbe pour décorer les aurochs. Dépêchons-nous !» Tous deux grimpèrent prestement sur l'échafaudage branlant. Le vieil homme approcha une torche contre celle d'Ibo pour l'allumer, puis il parcourut lentement la paroi. « Tu as bien dessiné pendant que j'étais à la chasse, » dit Ibo en admirant le travail de son ami. « Je ne suis pas mécontent de moi. J'ai fait 2 aurochs pendant ton absence. Bon, arrêtons de palabrer et remplissons plutôt mes nouvelles créations. » Ibo n'hésita pas une seconde à plonger les doigts dans la calebasse pleine de matière rouge. Il se mit à remplir le corps de la bête en tapotant de la main, sans mordre sur le trait fait au charbon de bois. Que du bonheur! Dès le 2e chapitre, on comprend que Ibo est détesté par le chaman du clan, dont le fils, Urkam, aurait souhaité devenir l'apprenti de Tahar. Près de mourir, Tahar enseigne à Ibo tous ses secrets et lui transmet ses outils les plus précieux. À la mort de Tahar, Ibo devient officiellement celui qui dessine les dieux et il accomplit sa tâche avec passion. Mais les dieux animaux semblent se détourner de lui et à plusieurs reprises la chasse est mauvaise. Les hommes reviennent bredouille et la tribu connaît la faim. Il est de plus en plus facile au chaman de faire peser la responsabilité de ses échecs sur Ibo, même si les dessins du jeune peintre sont superbes et très admirés des chasseurs. Peu à peu, il est mis à l'écart du groupe. On va jusqu'à lui reprocher ce qu'il mange puisqu'il ne permet plus de chasser. Urkam et ses amis lui tendent une embuscade et pour se défendre, il blesse ses assaillants. Ibo sait qu'il va être banni du clan. Il se précipite à la grotte pour y récupérer son matériel de peintre et il s'enfuit. Commence alors un long voyage plein d'aventures, de rencontres bonnes ou mauvaises, qui va bientôt se transformer en quête de la grande grotte dont on dit que les murs recèlent les plus belles créations. Roman d'aventure, roman d'initiation, un récit passionnant qui place l'art au centre de la vie de son héros. Pour les enfants à partir du CMA.
J'en rêvais depuis longtemps. Un album d'Olivier Talec aux éditions Actes Sud. Cet album grand format est rempli de surprises. Depuis la couverture avec son ouverture particulière, ces illustrations pleines pages, face à face avec le texte. Son titre, qui nous questionne, qui est ce jeu qui rêvait? La première et la quatrième de couverture nous proposent nos deux héros, certes, mais aucune ne lève cette incertitude du « qui raconte l'histoire ?» Et ce n'est pas le rapport texte-image qui nous éclaire davantage. Il y aura discussion et relecture à n'en pas douter avec nos petits lecteurs. Je vous lis le début de l'histoire, mais évidemment, allez vite voir les illustrations pour en peut-être y apprécier tout le sel. Ça faisait si longtemps que j'en réclamais, que lorsque je l'ai vu, je n'en croyais pas mes yeux. Je me suis approchée et mon cœur s'est mis à battre très fort. Je l'ai tout de suite trouvé très mignon avec ses grands yeux mouillés. Il a fallu qu'on s'habitue l'un à l'autre. C'est souvent comme ça avec les nouveaux amis. Je sais que c'était un cadeau, mais quand même j'aurais aimé le choisir, parce qu'il y en a des tas de différents. Bon, c'est pas grave, il est quand même super, et je crois que de toute manière, on se plaît bien. Je dois le sortir tous les jours, même quand il pleut. S'il reste enfermé toute la journée, il devient un peu zinzin. Et ça me permet aussi de le montrer aux copains. Tous mes amis en ont un, mais je crois que c'est moi qui ai le plus beau. Il a pris la mauvaise habitude de fuguer. Je peux le chercher toute la journée. Il rentre toujours au bout d'un moment. Mais quand même, je me demande où il peut passer tout ce temps. Allez, si vous voulez savoir la suite et surtout profiter des illustrations, allez chercher à la bibliothèque ou à la librairie ce superbe album.
Les lectrices, les lecteurs de Lire et Faire Lire offrent aux enfants, enseignants et parents leur coup de cœur en littérature jeunesse. Voici des présentations d'albums ou de romans sélectionnés pour leur qualité bien sûr, mais aussi parfois pour leur originalité. Vous les retrouverez sur le blog de Lire et Faire Lire, https://lireetfairelire.laligue10.org, 10 en chiffres. Et sur le site de Thème Radio à la rubrique Podcast, bonne écoute et belle découverte.